Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast qui vous parle de running et de lifestyle sportif. Je suis Bertrand Soulier et je suis marathonien. Oh que c'est bon de dire ça, oh que c'est bon, oui, oui je peux le dire, à J+15 maintenant du Marathon de Paris, je suis marathonien et je suis toujours dans l'euphorie. Je regarde à mon poignet, j'ai toujours mon petit bracelet vert hein, autour du poignet, le dossard est accroché au mur, la médaille est à côté de moi, je plane et je pense que si vous aussi vous avez couru le Marathon de Paris, c'était votre premier marathon, et si vous l'avez terminé, et si vous l'avez terminé dans les conditions que vous espérez, vous aussi vous planez, vous aussi vous avez adoré ce moment. Voilà, j'ai pas de suspense hein, sur le contenu de cet épisode, je vous l'avais dit, hein, ça serait un épisode bilan, hein, vraiment bilan du marathon. Je suis marathonien, voilà, il n'y a aucun suspense, mais je voulais vous raconter comment ça s'est passé, et puis c'est un petit complément, hein, je ferai un bilan écrit sur mon blog, je ferai aussi, j'ai déjà fait une vidéo YouTube, je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission, où en fait j'ai une vidéo, un petit bout de vidéo qui a été fait à mon arrivée, et j'ai quelques photos, et en fait j'ai pris, dans cette vidéo YouTube, j'ai fait un petit... quelques explications sur mon sentiment par rapport à ces photos. Voilà, c'est un peu plus visuel, hein, c'est une autre forme de bilan. Il y a des choses que vous allez retrouver dans cet épisode, mais ça c'est un petit complément. Voilà, c'était... Je suis toujours là-dedans, hein, donc voilà, je fais mes bilans de différentes formes. Là maintenant, c'est un peu plus froid hein, maintenant, hein, voilà, J+4, on commence à rentrer dans la réflexion autour de bah qu'est-ce qui s'est passé. Mais je suis toujours dans ce ressenti global, cette grande fierté, parce que finalement c'est la réussite d'un long projet. Hein, c'est ce que je dis quand je réfléchis là-dessus. J'en parlais l'autre jour avec ma femme quand on rentrait de Paris lundi en voiture. C'est finalement la perte de poids sur plusieurs années, vous voyez, cette concrétisation là qui arrive de ça. J'ai perdu plus de 25 kilos et quelque part en passant la ligne d'arrivée d'ailleurs, j'y ai pensé tout de suite. Ce que je disais dans ma photo sur Instagram hier quand j'ai publié, c'est que vraiment c'est l'une des pensées que j'ai eues. Je me suis dit mais et puis j'ai repensé aux premières courses, je me suis dit mais il y a 3 ans t'étais incapable même de penser à l'idée que t'allais courir un marathon. Et là, tu l'as fait. Et je l'ai fait aussi parce que j'ai réussi à perdre du poids, parce que je me sens mieux, parce que je me suis remis au sport, et voilà. C'est le bilan de 3 ans, c'est le bilan, ni la concrétisation, c'est finalement la réussite de 3 ans de running, vous voyez. Ça fait aussi 2 ans que j'avais annoncé ce projet, c'est aussi, quelque part... j'ai la grosse déception d'avoir loupé le marathon de Lyon qui était à quelques jours juste après mon anniversaire pour mes 42 ans. C'était vraiment lui le normalement mon marathon d'anniversaire, celui que j'avais imaginé il y a un an quand je me suis inscrit, puisque je m'étais inscrit au marathon de Lyon le jour du marathon de Paris. En regardant le marathon de Paris à la télé, je m'inscrivais pour le marathon de Lyon. Bref, vous voyez, toutes ces petites choses là qui s'ajoutent là-dedans, sont remontées vraiment dans le jeu. Au passage à la ligne d'arrivée, et bien sûr, bon, il y a la préparation de 12 semaines, hein. Moi, j'étais un peu tronqué par la grippe, hein, faut le dire. En fait, j'en ai fait que 9, voilà, vraiment, j'en ai fait que 9, parce qu'il y en a une, j'ai de la fièvre, l'autre, j'ai fait 1 heure de vélo, la troisième, j'ai fait 2 fois 1 heure de vélo, et ensuite, j'ai enfin pu me remettre à courir. Donc, on va dire que j'ai fait que 9 semaines de préparation. Peut-être, d'ailleurs, c'est pas impossible, que finalement les 3 semaines que j'ai pas faites me manquaient, parce que tout ne s'est pas passé tout à fait comme prévu. Je l'ai dit, si vous me suivez sur Strava, si vous me suivez si vous avez vu la vidéo sur YouTube, si vous me suivez un peu à droite à gauche, j'ai pris le mur. On avait parlé dans l'épisode avec Hermano, il y a 2 épisodes, sur cette crainte de prendre le mur. Et bah oui, j'ai pris le mur, hein, et vraiment en pleine face. Et j'ai vraiment senti ce que c'était que de se taper sur quelque chose qui était bien plus dur que ce que je pensais. D'abord, avant de parler de ce mur, ma stratégie de départ. Ma stratégie de départ, c'était de faire 3h30. Voilà, j'étais parti sur 3h30, je m'étais mis dans un sas 3h30. Au tout début de mon projet, c'était m'inscrire, je voulais faire le marathon en 4h environ. Enfin, au tout début, vraiment, je voulais le finir. Quand j'ai annoncé ça il y a 2 ans, je dis, je veux devenir marathonien, finir le marathon. Ensuite, j'étais avec l'entraînement, etc. Je me suis dit, je vais le finir autour de 4 heures. Et puis après, je suis descendu à 3h45. Et puis mon semi-marathon de Vichy, les entraînements, ma vitesse, ma VMA, tout ça. M'ont fait dire que je pouvais le faire en 3h30. Donc 3h30, c'était 5 minutes du kilomètre, et même, en fait, pour tout vous dire, je m'entraînais même à 4h45, voilà, et parce que par rapport à ma VMA, par rapport à plein de choses, je m'entraînais plutôt autour de 4h45 que 5. Mais je me suis dit, je vais faire prudent, hein, l'histoire du mur, donc j'ai réglé ma montre, comme j'avais fait pour Vichy, c'est-à-dire que la veille, j'ai fait un réglage de montre avec des alertes pour pas dépasser les certaines vitesses. L'objectif, c'était de ne pas m'enflammer, de pas partir comme un lapin, vraiment. Surtout après avoir fait une semaine très très light au niveau course. Donc le but du jeu, c'était de, comme il y avait du jus dans les jambes, etc., c'était pas partir vraiment trop vite. Donc j'ai fait en sorte de mettre des alertes. J'avais sur mon polar, j'ai fait un entraînement par phase. Voilà, tout simplement, j'ai appelé un entraînement par phase. Et en fait, j'avais découpé le marathon en petits bouts. Un petit bout 10 premiers kilomètres, du 10 au 20e, du 20 au 30, 30 au 40, et puis ensuite, au-dessus du 40e, voilà. Alors, je m'étais mis des petits messages, vas-y, c'est parti, ne t'enflamme toujours pas, hein, ça va arriver. Et puis du 30e au 40e, j'ai mis un message, c'était accroche-toi sur ma montre, c'était vraiment rigolo, j'ai mis le message accroche-toi, et je me suis dit, t'as bien fait de le mettre. Et puis, sur les derniers kilomètres, sur les deux derniers, je crois que j'ai mis le message, c'est fait, t'es dedans, quoi. Et donc, j'avais programmé ça pour, en fait, on va dire, entre 4,45 et 5,10. C'était dans les 30 premiers kilomètres, mon objectif, c'était 4,45, 5,10. Ne pas aller plus vite que 4,45, donc ne pas m'enflammer au départ, hein, vraiment, parce que je suis capable de m'enflammer, j'étais capable d'aller plus vite que ça, mais ne pas faire attention d'aller trop lentement et de pas aller plus lentement que ces 5,10. Et donc, j'étais parti sur cette programmation-là de ma montre. Et donc, quand je me suis présenté sur la ligne de départ, j'avais exactement cette stratégie-là, c'est-à-dire, je fais les 30 premiers kilomètres vraiment sur ce rythme-là, 4,45, 5,10, à part entre 30e et 40e, je peux accélérer un peu plus, et puis dernier kilomètre, je n'ai plus de limite, et je pourrais les faire à fond si je me sens d'être à fond. Bon, on va dire, c'est pas tout à fait passé tout à fait comme je le pensais, voilà, parce que il y a un moment donné où ça a coincé. Avant la course, petite précision sur comment ça s'est passé. J'étais chez ma sœur, voilà, on était partis en famille, on était chez ma sœur avec ma nièce, mes neveux, etc. Donc on a passé un charmant week-end, on est parti vendredi. Le samedi, je suis allé au salon du running, et le dimanche matin, bah, j'étais debout à 5h, petit déjeuner. Alors j'avais mon petit déjeuner prévu, un riz au lait, pancakes, un riz au lait maison, des pancakes, plus un peu de beurre, plus deux tranches de jambon blanc, des pancakes, plus du beurre cacahuète, une infusion chaude, un fromage blanc, de l'eau, du jus citron, hydratation, tout ça. J'ai fait ma boisson d'attente aussi, ma boisson d'effort aussi, un petit truc préparation maison, on fait mon sac, un petit échauffement musculaire à la maison, la pause aux toilettes bien sûr, hein, j'étais content, j'ai réussi à aller aux toilettes tranquillement, sans avoir besoin de me dire j'aurais besoin de faire la queue aux toilettes qu'il y a sur les Champs-Élysées qui sont installées dans les sas, en dehors d'un petit pipi bien sûr. J'ai quand même vérifié la température, hein, j'ai pris... il faisait 2 degrés au départ, et donc je me suis mis sur la terrasse, je dis waouh, ça caille. Et en fait, pour l'anecdote, c'est que j'avais une sous-couche, un petit truc Décathlon que j'ai mis pendant tout l'hiver, et je pensais pas en avoir besoin pour cette course-là, et au dernier moment, je l'ai mis dans ma valise. Au dernier moment, au moment de boucler la valise, vendredi matin, juste avant de partir, je l'ai rajouté dans la valise en me disant ouais, ils ont pas l'air d'annoncer très chaud quand même, je le mets au cas où. Et donc le samedi, j'étais encore parti pour courir avec des manches longues, des manches courtes, hein, mon pull rouge avec des manches courtes. Et après, en rentrant, je me suis dit, ouais, il y a un petit air frais, je vais mettre des manches plus longues. Donc, j'avais prévu un truc fin avec des manches longues. Et vraiment, au dernier moment, vraiment, j'ai ressorti ce truc-là. J'ai dit, mais aïe, demain, je le sens pas. Je vais mettre peut-être un truc encore plus, un peu plus épais pour partir parce que j'ai l'impression que ça va cailler. Et effectivement, il faisait 2 degrés. Et j'ai entendu que les Kenyans et autres avaient trouvé qu'il faisait trop froid. Qui caillait, voilà, et en plus dans la partie le sas, hein, vraiment d'attente, je trouve qu'il caillait vraiment. Ensuite, bon, après cette petite préparation, bah, je suis allé prendre le métro avec une bonne avance. Hein. Ma hantise, c'était d'arriver vraiment dans les limites, etc. Donc, pas de stress. Je suis parti tranquillement. C'était autour de... On pouvait rentrer dans le sas autour de 8h10, hein, je crois. Donc, je suis parti autour de 7h15, tranquillement. J'ai une petite demi-heure de métro. C'était sympa, parce qu'il y a d'autres coureurs dans le métro. On pouvait discuter. Et vraiment, voilà. Et puis, à bout d'un moment, on est rentré, je crois, dans la ligne 8. Et c'était rempli. Il n'y avait que des marathoniens. Tout le sas s'est vidé à Franklin Roosevelt. Enfin, le sas, pardon. Le métro. Ça ressemblait à un sas de départ, en fait, cette histoire-là. Donc, tout le métro s'est vidé. Et puis, on s'est tous pointés au bas des champs. Voilà. J'ai pas fait de tourisme, hein. Il y en a un qui s'est chauffé, j'ai fait une petite photo au milieu, etc. J'ai bu ma petite boisson d'attente. J'ai pris un grand sac poubelle pour mettre à l'intérieur pour ne pas avoir froid. J'ai fait des petites photos, j'ai discuté, voilà, c'était sympa, vraiment, vraiment sympa. Regardez un petit peu les gens, j'ai trouvé que ça pétait beaucoup moins que ce que le 10 km de Paris que j'ai fait il y a 2 ans, où j'ai trouvé que l'ambiance était vraiment... les gens, je trouvais qu'ils ils se regardaient un petit peu, ils comparent un peu le matériel, etc. Là, j'ai trouvé que c'était... On savait, c'était pas la même ambiance, c'était vraiment plus dans le truc, ouah, tiens là, on se lance dans un truc, un petit peu un défi ou quoi que ce soit. Puis vous savez, sur le marathon de Paris, bon, ceux qui l'ont fait le savent, si c'était votre premier marathon, vous savez, ceux pour qui c'était le premier marathon comme moi, on avait des petites étoiles brillantes, des petites étoiles, oh là là, des petites, comment ça s'appelle, des petites tours Eiffel brillantes qui étaient sur le dossard. Donc, quand on voyait le dossard de quelqu'un, quand on voyait le petit... Petite tour Eiffel brillante là en or, on savait que c'était le premier marathon, donc voilà, il y avait des petits repères comme ça, j'ai trouvé ça super sympa. Et là, bon, dans mon sas de départ, j'ai repéré les meneurs d'allure, il y en avait 4 hein, dans le sas, avec leur petit panneau 3h30, et puis je vais vers, je discutais un petit peu avec l'un, je vais vers l'un, très sympa, qui dit voilà, moi je cours toujours à 5 du kilomètre, 5-0-0 du kilomètre. Je suis très régulier, il a dit, il y a juste après le kilomètre, après le ravitaillement, on est toujours un petit peu plus lent. Il dit, je m'arrête pas au ravitaillement, mais on est toujours un petit peu plus lent, le temps de prendre, d'assimiler le ravitaillement, et puis on reprend sur du 5-0 du kilomètre. Et je me suis dit, il est parfait pour moi, ce gars. C'est vraiment, vraiment parfait. Il a dit, ouais, vous allez voir, tout va bien se passer, on est cool, c'est pas mon premier, ça va bien se passer, etc. Et donc, je me suis dit, je vais le suivre. Et donc, je fais même une photo où j'ai mon petit meneur d'allure, là, devant moi. Je me dis, lui, je vais pas le lâcher. Et alors, il s'est passé un truc, c'est qu'au dernier moment, avant de partir, il est allé aux toilettes. Voilà, il est allé faire son petit pipi. Et je l'ai vu partir, son petit drapeau. Sauf qu'en fait, il a pas réussi, il est pas revenu. Ça s'est tassé un petit peu, il est pas revenu exactement là où on était. Et je pense qu'il y en a qui l'ont suivi, j'en sais rien s'ils l'ont suivi, mais aller le suivre en train d'aller faire pipi, ça se faisait pas quand même. Et donc, il est revenu et il est resté décalé sur la gauche de la route. Et moi, j'étais plutôt sur la droite. En fait, au milieu, mais plutôt vers la droite. Et donc, dans notre sas, ils ont séparé le sas en deux. Il y avait, vous savez, le terre-plein central qui avait été fait. Terre-plein central, en fait, dessus, il y avait la sono. Il y avait aussi des bénévoles, il y avait des réceptacles pour poser les vêtements, pour poser les sacs poubelles, les ponchos, les trucs comme ça. Et donc, en fait, il s'est retrouvé, lui, sur la gauche du terre-plein, quand on regardait la ligne de départ, et moi sur la droite. Et alors, stupéfaction, vraiment stupéfaction, et la file de gauche est partie, et la file de droite, la mienne, est restée sur place. En fait, ils ont fait partir une file et pas l'autre. Donc, ils ont fait partir la file de gauche en premier, donc j'ai vu mon petit meneur d'allure partir, et nous, on est parti. Je sais pas, ça m'a paru interminable. J'allais vous dire peut-être 5, 6, 7 minutes plus tard. Mais bon, beaucoup, beaucoup trop tard. Hein, voilà, si c'est 5 minutes, de toute façon, c'est déjà 1 km. Donc, c'était irrattrapable. Surtout un gars qui court à 5-0. Et puis, quand vous dites, faut pas que j'aille plus vite que 4,45 ou que je cours en 5-0. C'était pas possible. Donc, je me suis retrouvé même d'ailleurs sans meneur d'allure parce que j'avais un meneur d'allure qui était de loin devant, je voyais pas rattrapable, et meneur d'allure derrière. Mais qui paraissait loin derrière dans le sas. Donc voilà, je me suis dit, je vais courir sans. Donc petit à petit, notre sas a avancé vers la ligne. Il y a eu un petit échauffement, 3-4 minutes. Ils ont fait faire un petit clapping. Voilà, alors petit échauffement, hein, c'était bouger les jambes, bouger les pieds, etc. Enfin, tout un tas de petits trucs comme ça. Là, je tourne la tête et vraiment, je regarde un gars à côté. Je le vois en pleurs, trop ému d'être là. Et moi, j'avouais, je fais pas trop de malin. Quand j'ai regardé les photos, on voit l'émotion dans les yeux. En fait, j'ai toutes ces émotions là de la préparation, etc. Je l'ai ressenti avant le début de la course. J'ai commencé à la ressentir avant le début de la course. Et en fait, j'en ai profité à plein. C'est-à-dire que j'ai pas mis de musique ou que ce soit. Je regardais tout ce qui se passait. Je discutais. Je faisais des photos. Je regardais. En fait, cette sensation d'être du premier marathon, je la connaîtrai plus, hein, parce que maintenant le premier il est passé. Et donc j'étais fier d'être là. Et donc j'ai profité au maximum, vraiment au maximum. Mais il y a un moment donné, quand même, j'étais impatient. Je voulais je voulais en découdre. Et je me suis dit, mais pourquoi on parle pas? Mais pourquoi on part pas? Mais laissez-nous partir, franchement. Au bout d'un moment, j'en ai un petit peu marre. Voir la file de gauche partir, nous continuer à faire des échauffements, écouter les speakers parler et tout. Au bout d'un moment, ça m'a un petit peu gavé. Moi, j'étais pressé de partir. Et puis finalement, bah, c'était à nous. C'était à un moment de partir. Voilà, la ligne de départ. On a passé cette ligne de départ. C'était parti pour 42 km et 195 mètres. Et vraiment, cette sensation de dire, waouh, ça y est, maintenant, c'est parti. Tout ce que t'as fait jusqu'à maintenant, c'était pour cet instant-là et pour les 3h30 qui suivent. Alors, comment s'est passée la course? Je vous ai pas parlé d'échauffement dans mon histoire, je vous ai parlé de petits mouvements articulaires, de voilà, j'ai fait des squats, des fentes, j'ai fait des choses comme ça, dans le sas on en a refait. En fait, j'avais décidé de ne pas courir, c'était une discussion qu'on a eue avec Hermano, hein, il y a deux épisodes. Lui, il faisait un échauffement avant le marathon, j'en ai discuté avec quelqu'un au club, alors j'ai eu deux sons de cloche. Mon président, qui court à peu près dans la même vitesse que moi, hein, qui fait des marathons autour de ce temps-là, me dit... Ça part pas très vite, surtout qu'il y a du monde, t'as pas besoin de t'échauffer beaucoup, tu peux t'échauffer dans les premiers kilomètres. Et puis il y avait un autre gars qui lui a fait le marathon, je crois qu'il le fait en 2h54, oui, un truc dans le genre là, vraiment il a fait un super bon temps. Lui m'a dit, moi je m'échauffe 3 kilomètres environ, voilà, comme pour un semi, mais je m'échauffe 3-4 kilomètres, parce qu'il faut vraiment se mettre dans le rythme. Et c'est vrai que lui, à la vitesse à laquelle il part, il a besoin vraiment. Moi, en partant autour de 5, je me suis dit, est-ce que je m'échauffe pas, j'ai décidé de pas m'échauffer, et je me suis dit, de toute façon, de pas m'échauffer, ça m'avait obligé à partir un peu plus doucement, pour avoir une période d'échauffement, justement. Et donc, cette stratégie-là me permettait aussi d'éviter de partir comme un lapin, d'avoir le cœur qui partait dans tous les sens, etc., et d'être chaud comme une patate, et de partir vraiment trop vite. Donc, je suis parti à un peu moins de 5 minutes du kilomètre, et franchement, j'étais bien, voilà. J'ai trouvé que les pavés faisaient un petit peu mal aux pieds en courant, mais bon, a priori, bon, ça, c'est les... Enfin, sur le coup, je me suis dit, ouais, ils font un peu mal, mais bon, c'est ce déchant. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui faisaient encore plus mal, hein, si vous l'avez couru, vous savez de quoi je parle. À la fin, j'ai la sensation qu'en fait, ce qui m'avait vraiment coupé les jambes, par moments, c'était ces espèces de pavés qui, il y a des moments où j'ai senti, ils étaient durs sous les pieds. Mais bon, pour l'instant, à ce moment-là, vous voyez, je les trouve pas très agréables. Voilà, je me dis, je les trouve pas super agréables, mais je suis bien. Donc, me voilà parti comme ça, tranquillement, hein. Enfin, voilà, autour, ouais, le premier kilomètre, hein, voilà, quand je le boucle, je suis en 25-53. Voilà, les 5 premiers kilomètres en 25-53. Donc, je suis plutôt sur un rythme de 5-10, qui correspond à ce que j'avais dit, hein, pour un peu m'échauffer. Et ensuite, eh ben, je me mets dans mon rythme, 5 minutes de kilomètre. Et donc, je suis pile dedans. Alors, vraiment, quand je dis pile, c'est que au kilomètre 10, voilà, au temps intermédiaire, hein, entre le 5e et le 10e kilomètre, je fais pile ces 5 kilomètres-là en 25-00. D'après le chronométrage, pile en 25-00. Alors j'ai toujours mes 53 secondes de retard par rapport à la première partie, hein, à la partie sur les 5 premiers kilomètres, mais je suis pile poil, vraiment pile poil, à 12 km/h, vraiment comme j'avais prévu mon histoire, je suis vraiment là-dedans. Alors, après, bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je continue à courir. Alors, il y a des tassements, il y a des gens qui courent un peu moins vite, il y a les trottoirs, etc. Je me rends compte, en fait, que je cours un peu moins vite. Je prends un petit peu de retard au fur et à mesure, hein, voilà, mais je me dis, ouais, il y a pas, c'est pas non plus, on pas, c'est, je prends, par exemple, entre le 10 et le 15, eh ben, je refais en 25-50, vous voyez, donc je reprends une petite 50 secondes de retard. Donc là, déjà, bon, je suis pas 2 minutes de retard, mais presque. Après, je fais 25-58, voilà, là, hop, donc 25-28, voilà, donc j'ai 30 secondes de retard, en fait, au kilomètre 20. Je suis un petit peu, voilà, je suis un peu en retard sur mon temps, mais je me dis, bon, c'est pas très, 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 très grave. On verra comment ça va se passer ensuite. Et je passe au semi-marathon en 1h47, et là, vraiment, je suis en rythme 5-01, vous voyez, tranquillement. Là, vraiment, vraiment, je suis super bien. Et ça continue comme ça, jusqu'au 24e kilomètre. Là, j'ai une petite alerte. En fait, j'ai une petite pointe de douleur, pas de la douleur, on va dire, une petite raideur dans la cuisse, au 24e kilomètre. Mais bon, ça repart tranquille, hein, franchement, le 25e, je suis même en 4,51, donc il n'y a rien à dire, 25, 26, vous voyez, je redescends dans mes 5... Enfin, dans mes temps, hein, autour de 5-0 du kilomètre, tout va bien jusqu'au 27-28e. Et là, par contre, je me retrouve, mais scotché. 27-28e, vraiment, j'ai un vrai coup de barre. Je me retrouve, c'est le sensation vraiment de premier coup de barre. Vous voyez, je me retrouve scotché. Surtout, en fait, le 27-28, alors, le 28 doit correspondre vraiment quand je regarde, si vous l'avez couru, vous voyez de quoi je parle, c'est on est sur les quais, et on arrive, vous savez, le tunnel, le grand tunnel. Il y a un tunnel, je sais pas comment il fait, il m'a paru interminable. Sans repère, le GPS ne fonctionne plus, je regardais sur les murs, sur le côté, je voyais, vous voyez, il y a des bornes qui me disaient, il y a une sortie piéton à 50 mètres plus loin, 25 mètres derrière, etc. Et je me dis, mais il est où? Et on voit même plus la lumière, il y avait plus de lumière devant, plus de lumière derrière, on était dans cette espèce de tunnel. Puis il y avait même pas d'ambiance, ni rien, etc. Et il m'a paru super long. Et vraiment, 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 ce bout de tunnel, là, vraiment, je crois qu'il me casse vraiment, mais dans la tête, il me casse vraiment mon rythme. Et j'étais pas très bien avant, depuis environ quelques centaines de mètres. Et puis là, vraiment, il m'a vraiment cassé. Mais derrière, quand on sort de ce tunnel, ça repart. Et vraiment, alors là, mais quand je vous dis que ça repart, c'est que le 29e est tout simplement mon kilomètre le plus rapide. 4,07. Vraiment, oui, 4,07. Et là, je me dis, ouh, c'est cool, vraiment, ça repart vraiment bien, t'as de l'énergie, vous voyez, dans le tunnel, j'ai pris, mangé un petit peu, j'ai bu mon petit coup, etc., et ça repart, mais vraiment, j'ai une sensation d'aller vite et tout, de dire, ouah, punaise, mais en fait, t'as encore beaucoup d'énergie, c'est cool. Le 30e, il est super bon aussi, 5,05, et vous voyez, là, je me dis, bon, allez, quand t'es dans ces rythmes-là, bah, tu vas revenir tranquillement, tu vas reprendre petit à petit ton rythme, etc. Tu seras pas très loin de ton objectif. Mais alors, le 31e, ouh, là, le coup de bambou, massue, mais vraiment le coup de massue, 6,22. Et en fait, ce 31e, il correspond, si vous avez couru, vous savez, ils avaient fait le mur et les bâches, etc. Et ben, juste avant, et à un moment donné, il marque, vous passez le mur, là vous prenez le mur, là je suis bien, hein, 31e par rapport à mon chrono, je crois que c'était 31, c'est marqué 31 à cet endroit-là, et ben là je suis bien, mais ça commence d'un coup à prendre, et ben, vous voyez cette espèce de coup vraiment dur comme ça, je m'accroche hein, sur l'instant, je vois cette bâche là, 31e, etc., il y a de la musique, il y a de l'ambiance, etc., le 32e, le 33, le 34e, vous voyez, je suis en 5,06, 5,17, et puis 34e, c'est 5,44, ça ralentit. Et le 35e, 6,19, là, à nouveau, ça commence vraiment, là, je reprends un coup, mais vraiment massue. Le 37, sont pas bons, le 38 est pas bon, le 39, mais le 39, il m'a paru interminable. 6,54, voilà, là, vraiment, c'est le bois de Boulogne. En fait, c'est le bois de Boulogne. J'ai l'impression que ce bois de Boulogne, je sais pas quelle distance on a fait dans le bois de Boulogne, hein, soyons honnêtes. D'ailleurs, attendez, je suis sur Strava, donc je pourrais très bien regarder, hein, combien on a fait. 34, on a fait presque peut-être 5 bornes dans le bois de Boulogne, hein, voilà, un truc comme ça. Il m'a paru, mais vraiment interminable. Il m'a paru interminable. Et je regardais autour de moi, j'étais pas le seul pour qu'il ait été interminable. Certains marchaient, j'en ai vu qui vomissaient contre un mur, contre un mur non, contre des arbres. Certains étaient assis sur le bord, ils étaient épuisés, il y en a plein qui étaient vraiment pas bien, il y en a qui boitaient, enfin, vraiment pas bien. Et puis, le pire, c'est que, on entend deux ambulances passer. Et à un moment donné, il y a deux ambulances qui sont sur le côté, il y a une bâche, ils tendent une bâche blanche, et vraiment quand on passe, il y a le sentiment qu'ils sont en train de faire un massage cardiaque, une réanimation à quelqu'un qui est allongé par terre, on voit les pieds qui dépassent un peu de la bâche, moi je vois les gestes comme ça, je me retourne pas, mais il y a un gars qui est arrêté, qui pleurait sur le côté, là, comme ça, quelqu'un d'autre lui dit, allez, ne regarde pas, c'est reparti, etc. Et donc, sûrement pas été avec le coureur, mais il l'a vu, lui, s'arrêter, tomber, je sais pas. Vous voyez, dans le coup, dans la tête, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, il n'y a pas un mec qui va rester là, qui, pour faire vraiment cet objectif-là. Et moi, je me regarde, je me dis, mais tout va bien, ton cardio s'est pas enflammé, t'es bien, ma moyenne cardiaque, et c'est pas enflammé ni rien, je me dis tout va bien. Certes, j'avance moins vite que voulu, mais j'avance. Voilà, c'est ce que je me dis. Je me dis, c'est t'es bien, t'es pas si mal que ça en fait. C'est ce que je me suis dit vraiment. Tout va bien, continue à avancer, tu t'es préparé pour ça, et c'est maintenant que tu que tu vas profiter de ce qui reste à faire. Il te reste un petit peu à faire. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai sorti mes écouteurs. J'ai pris mes écouteurs dans ma petite ceinture. J'ai sorti mon téléphone. J'ai mis ma liste Spotify spéciale course. J'ai mis ma musique comme ça, je me suis isolé, j'ai repensé aux peu de kilomètres qui restaient, je me suis accroché à mes pensées, ma femme, ma fille, le chemin parcouru, tout ça, vous voyez, toutes ces petites émotions qui remontaient. L'émotion elle même remontée, j'ai presque quelques larmes qui remontent en me disant « oui, tu vas devenir marathonien ». Et là, je me suis accroché vraiment en me disant les 3h30, c'est raté, vraiment, et je les ai mis de côté, j'ai dit « c'est pas grave, tu t'en fous ». Mon objectif, c'était de dire « maintenant, de toute façon, si tu avances à cette allure-là, tu vas arriver avant 4h, et il y a quelques temps, tu pensais pas que tu arriverais avant 4h ». Donc, je me suis dit, à ce moment-là, de toute façon, concentre-toi sur le fait qu'il faut avancer, qu'il faut avancer, qu'il faut avancer. Et je dis dans la vidéo, à partir du kilomètre 34, 35, là, dans ces zones-là, j'étais scotché sur la ligne verte. Vous savez, la ligne verte qui était dessinée là pour dire le tracé de 42-195, là, hein, la ligne verte, qui est des fois bleu sur d'autres marathons, qui peut être d'autres couleurs. Bon, je pense que là, le sponsor, il est vert, donc ils l'ont fait verte. Mais vraiment, à un moment donné, je me suis accroché à cette ligne verte, je me suis dit, de toute façon, tu la suis jusqu'au bout. Suis cette ligne verte jusqu'au bout, et tu vas arriver au bout, mais suis cette ligne verte et va jusqu'au bout. Et dans le bois de Boulogne, encore, je suis scotché sur cette ligne verte, hein, soyons clairs. C'était mon repère, c'était ma ligne de vie, j'ai envie de dire, un petit peu, sur lequel je me suis accroché. Et donc je repense à tout ça, et puis on arrive, il y avait un peu de public, il y a des encouragements, etc. Je me rapproche un peu du public pour entendre des encouragements. Dans le bois de Boulogne, il y avait des gens, par exemple, il y a un gars qui me double à une vitesse, mais il avait l'air de courir, de rebondir. Il y a son entraîneur qui dit « ouais, t'es super bien, tu vas aller faire, tu vas faire ton temps, etc. » Puis moi j'étais là, vous voyez, je m'étais fait doubler par un meneur d'allure, qui j'ai vu à l'arrivée. C'est un Allemand, a priori, qui a fait 3,29, mais au moment où il me double, en fait, il court pas en 5, il court en 4,42, il annonce un truc comme ça, vous voyez, il discute en même temps, je dis, mais moi, je peux pas le suivre, j'ai laissé partir, vous voyez, vraiment, j'étais vraiment scotché sur là-dessus, mais à un moment donné, vraiment, je me suis dit, de toute façon, il te reste pas grand-chose à faire, tu le fais. Donc, les derniers kilomètres, là, par contre, ils vont passer extrêmement vite. C'est en fait un peu comme dans un rêve. Voilà, je suis dans ma petite bulle. Ma femme a envoyé un SMS pour me dire on est situé à tel endroit, vraiment. Elle me dit voilà, on est placé à tel endroit. Ma nièce m'envoie aussi un petit message pour me dire on est situé à tel endroit. Alors au début, elle me dit on est à pas très loin de la ligne d'arrivée, mais bien sûr, après, elle me dit on est sur ta gauche à toi quand tu vas arriver, etc. Et donc au kilomètre 41, j'ai fait un truc, c'est que j'ai sorti mon téléphone à nouveau, j'ai fait une photo de la pancarte 41, kilomètre 41, j'ai pris une photo pour l'envoyer à ma femme, pour qu'elle s'attende à me voir arriver, voilà, tout simplement, pour qu'elle sache, hein, elle était avec ma sœur et ma nièce, pour qu'elle sache à quel moment j'allais débarquer. Et donc, à ce moment-là, je me dis, bon, bah maintenant, de toute façon, t'as plus qu'à arriver, accroche-toi, quoi, accroche-toi. Et donc, dans les dernières centaines de mètres, je me colle aux barrières, vraiment, je me colle aux barrières, sur le côté gauche, alors en plus, ça me permet de me rapprocher du public, d'entendre les encouragements, etc. Je les cherche du regard, et vraiment, ça défile à toute vitesse, j'ai le sentiment que ça défile vraiment à toute vitesse à ce moment-là. Et dans les dernières centaines de mètres, je les cherche, et je finis par les trouver. Et oui, je les trouve, je leur fais un petit coucou, j'ai un grand sourire, etc. Et c'est la vidéo, je l'ai mise sur YouTube, hein, dans ma vidéo de bilan, je l'ai mise sur YouTube. En fait, elles sont surprises. Elles vont me le dire, ma femme me dira, mais on t'attendait, parce que ce qui est très bien sur le marathon de Paris, c'est que finalement, comme il y a le chronométrage toutes les 5 kilomètres, et qu'il y avait le live sur l'application, elle pouvait voir, et au début, elle voyait que j'étais bien dans le rythme, etc., que ça avançait bien, et elle a vu en direct que à un moment donné, ça avançait plus. Et donc, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle me dit, les gens, ils arrivaient là, il y en a qui avaient des crampes, il y en a qui s'arrêtaient devant nous avec des crampes, elles n'arrivaient plus à faire les 100 mètres, les 200 mètres qui restaient pour arriver, etc., parce qu'ils étaient environ dans ces derniers 200 mètres, là, vous voyez, les fameux 195. Et elle me dit, toi, on t'a vu arriver, mais t'avais l'air frais. Et effectivement, quand on voit la photo, quand on voit la vidéo, j'ai l'air frais. Et en fait, je me sens frais, je me sens bien. Cette dernière ligne droite, elle est courte, elle défile sous mes pieds, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de dire interminable ou quoi que ce soit. Je me rappelle, mon premier 10 km, elle m'est paru interminable sur la dernière ligne droite. Et là, c'est pas le cas. Je vois les bâches au milieu, j'ai un réflexe, je sors mon téléphone à nouveau pour faire une photo vraiment avant de prendre la photo de cette ligne d'arrivée avec l'avenue Foch derrière, etc. Je pensais vraiment que ces 195 mètres, ils seraient longs, mais en fait, ils sont trop courts. Je les ai trouvés trop courts. Oui, je les ai trouvés trop courts sur l'instant. Donc je fais ma photo, j'écarte les bras, je savoure, je serre le poing. Et d'ailleurs, les photos, vous savez, les photographes là, qui envoient les photos après. Et j'ai cette photo où je serre le poing. Je suis marathonien, voilà. Et ce moment-là où je sais, voilà, j'ai réussi, je suis marathonien. Et là, en fait, même en le disant maintenant, je sens l'émotion qui remonte. Mais alors, derrière la ligne, j'étais super ému. Je fais un selfie avec la banderole Bravo. Après, je vais récupérer la médaille. Il me dit, je vais faire un selfie avec la médaille, je vais la partager sur Instagram, je vais envoyer ça à ma femme pour que la rassurer, pour dire tout va bien, etc. Et en fait, j'ai les larmes aux yeux. Tout remonte. Voilà, tout remonte. Je suis incapable sur l'instant de faire une photo avec le sourire vraiment, alors qu'en fait, j'ai du sourire plein en moi. Mais en fait, ce qui remonte, le premier truc qui remonte, c'est les larmes d'émotion. C'est pas le reste. C'est vraiment ça. Et vraiment, vraiment. Je récupère le t-shirt, donc la médaille, etc. Et à un moment donné, vraiment, il a fallu quelques minutes, vraiment, pour arriver à faire une photo avec le sourire. En fait, la photo avec le sourire, c'est quand je suis sorti de la zone, j'ai retrouvé ma femme et ma fille, je les ai serrées très fort contre moi. C'était vraiment un moment très, très, très fort. Et là, elle me dit, ouais, tu veux pas faire des photos et tout? Si, j'ai besoin d'une photo, et ta photo Instagram. J'avais mis une veste, j'ai renvé ma veste, j'ai mis la photo, ma sœur a fait une photo, j'ai fait ma photo, mon selfie. J'ai d'ailleurs posté, ma sœur me prend photo en train de faire ma photo d'Instagram, etc. Donc je l'ai mise aussi, et puis je la mettrai aussi sur Instagram parce qu'elle est trop drôle. Donc voilà, tout ça, tout ce moment-là, et je sers aussi ma sœur fort et tout. C'est elle qui m'a offert le dossard pour à Noël, hein. C'était mon cadeau de Noël, et je dis, bah, c'est un sacré cadeau que tu m'as fait, hein. Celui-là, je me rappellerai très longtemps. Et en fait, je vois qu'elles sont fières, je suis fier. Et vraiment, c'est le moment très très fort qui restera aussi et qui est passé super vite. Voilà, c'est que quand je le revis maintenant, il est passé extrêmement vite. Alors, voilà, maintenant, cette émotion, elle est encore là, je suis encore dans l'euphorie, mais il est temps aussi de faire un petit bilan. Alors, je vais le faire en deux points, deux, trois points. Premier point, c'est la satisfaction. Voilà, c'était j'ai pris mon premier dossard il y a 3 ans, en mars, hein, il y a 3 ans. C'était mon premier dossard. C'était un trail de 13 bornes. Et le jour où je suis allé prendre le dossard de cette course, le samedi avant la course, j'ai dit de toute façon, la course c'est pas devant la maison. Si je me sens pas bien, si je suis pas bien, je poserai le dossard, je donnerai un ordinateur et j'entrerai directement à la maison. J'irai chercher la voiture plus tard. Et c'était, vous voyez, mon assurance, mon truc. Et puis le gars m'a dit « Non, ça va mieux se passer et tout ». Et ça, franchement, à l'époque, c'est une course que j'avais faite avec une ancienne collègue, etc. On était parti, comme c'est du trail, il y a de la montée. On était parti sur des vitesses sur 9 km/h, vous voyez. Et j'ai pris du plaisir, mais bon, je pesais 10 kilos de plus, hein, quand on voit les photos. Et j'avais pris du plaisir, sinon j'aurais pas recommencé, c'est clair. Mais je me dis, il y a quand même un sacré chemin parcouru, voilà. Et la satisfaction est là-dedans. C'est-à-dire que j'ai aussi, par exemple, couru plus vite que mon premier kilomètre, 10 kilomètres, il y a 3 ans. Quelques semaines après ce premier trail, j'ai fait un 10 km sur la piste d'essai de Michelin, il y a 10 km de la Doue. Il y avait 5 et 10, je m'étais inscrit sur le 10 pour voir ce que ça faisait, parce que je me suis dit, oh, tu vas faire un trail, tu vas pouvoir faire un 10. Et ça avait été dur, ça a été long, ça a été fatigant, etc. Et le 10 km, ce premier 10 km, je l'ai fait moins vite à l'époque, ma moyenne en kilométrage, que ce que j'ai couru pendant les 42 km, ma moyenne des 42 km ce dimanche. Donc là, vraiment, c'est la grande satisfaction. L'autre satisfaction, c'est que j'arrive assez frais. J'avais pas envie d'arriver complètement naze, pas pouvoir marcher, vous voyez ces images où les gens s'affalent, quoi. J'ai vu quelqu'un, par exemple, qui dit, j'ai battu mon record, mais j'ai fini aux urgences. Ça, j'ai pas envie. Moi, j'avais envie d'arriver frais, avec le sourire et tout, de profiter de l'ambiance, voilà, d'avoir des gars et tout. Il y en a un qui m'a serré la main, il y a une qui dit, à la prochaine, etc. Je dis, à la prochaine, attends, mon gars, déjà, on va voir celui-là, mais le digérer, mais j'ai envie de profiter de ce truc-là. J'arrive même peut-être plus frais, vraiment, je le dis, que ce fameux 10 km il y a 3 ans, mais peut-être plus frais aussi que des 10 km il y a 2 ans, vous voyez, des choses comme ça. Même pour le dire franchement, c'est que, bon, je marchais pas très bien dimanche, surtout quand on s'arrête de courir, là, vous voyez ce que je veux dire, là, le sang qui se remet à circuler différemment que pendant la course, mes petits pieds qui étaient un petit peu des formes de knackis, j'avais quelques ampoules, des choses comme ça. Mais en fait, le dimanche, bah, j'ai fait une sieste, j'ai massé mes jambes, j'ai pris un bain avec des ma sœur et ma nièce avaient préparé des sels de bain, mais avec de l'arnica dedans. Elles ont trouvé ça chez Amazon. Alors, je sais pas ce que c'est qui a été plus efficace, si c'est la préparation, si c'est ces petits bouts de massage, si c'est ce bain ou quoi que ce soit. Mais dimanche, déjà, je marchais bien. Lundi, je marchais normalement, vraiment normalement, y compris dans les escaliers, voilà. Et mardi, pas de douleur. Ce qui est ma femme, elle m'a regardé bizarrement. Moi aussi, je me suis regardé bizarrement. Hier mercredi, je marchais normalement, voilà, tranquillement. Pour blaguer, j'ai fait des squats. Non, j'en ai fait deux, hein, voilà, pour tester voir. Je dis oui, ça plie, etc. Vraiment pas de douleur. Ce qui d'ailleurs me pose question, hein, franchement, parce que je me dis, bah, peut-être qu'il y avait matière à faire mieux. Car c'est en fait, il y a cette déception du temps quand même qui est là. Vous voyez, j'espérais 3h30 avec ma prépa. Et on m'a dit oui, ça va le faire, ça va passer, etc. Et puis, au final, je suis quand même content de finir en moins de 4 heures. Parce que c'est ça, je le dis, hein, je m'étais raccroché à ça pendant dans le bois de Boulogne, faire moins de 4 heures, je m'étais raccroché vraiment à ça. Donc je suis content de faire moins de 4 heures. Mais j'ai un sentiment que finalement, ça pouvait être mieux. Et vraiment, le sentiment que ça, c'est que j'ai raté quelque chose. J'ai raté, il y a un truc qui fait que, à un moment donné, j'ai manqué d'énergie. Je suis surpris parce que finalement, je suis pas aussi mal que ce que je pensais, hein. On m'a dit, ouais, tu vas marcher le lundi, mardi. Vous savez, c'est la blague. On dit, on voit quelqu'un qui fait le marathon de Paris parce que le lendemain, il peut pas descendre dans le métro, il marche pas, etc. Je redoutais d'avoir du mal à finir. J'ai fini frais. Je suis bien au moment de passer la ligne. J'ai pas si mal que ça. J'ai pris 2-3 ampoules, je les ai senties pendant la course, en plus je les ai prises vraiment au bout des orteils, puis j'ai un ongle qui a fini par se décrocher, hein, parce qu'il y en avait un autre qui était en préparation dessous, mais il s'est décroché qu'après, donc ça va, hein, pendant la course je l'ai pas senti, 2-3 ampoules qui étaient un peu grosses, etc., mais pas tant de douleur que ça, donc je le dis, hein, j'ai ces douleurs-là sont passées très très vite, donc je pense que ma prépa était très bonne, hein, que j'étais physiquement très très... J'étais bien préparé. Là, je suis vraiment content. Je pense que j'avais mis tous les ingrédients qu'il fallait entre le repos, le sommeil pendant toute la prépa pour être en forme, pour avoir tout ce qu'il fallait. Mais que j'ai ce manque de carburant, voilà, ça s'est joué en fait, j'ai envie de dire, dans la dernière semaine et peut-être dans les tout derniers jours. On m'avait prévenu, on m'avait dit, attention, les derniers jours, c'est ce qui est le plus important, etc. Vous voyez, j'ai fait très attention le week-end, vider un peu les réserves et puis pour après reprendre des réserves, etc. J'ai fait attention vraiment à mon alimentation pendant toute la prépa, j'ai fait attention dans la dernière semaine, j'ai fait attention aussi pendant la course de bien manger à chaque ravitaillement, j'ai pris mes energy balls, j'ai pris des pâtes de fruits, j'ai bu très régulièrement, j'ai ma petite boisson à moi avec... dedans j'ai mis un peu de comment ça s'appelle, bicarbonate de soude pour avoir du sel, j'ai mis un peu de sucre, j'ai mis un petit peu de jus de citron par rapport à l'acidité. J'ai pas eu mal au ventre d'ailleurs, c'était une de mes craintes, j'ai pas eu de crampes, vous voyez, tout ça c'était bien bien bien. C'est juste que j'ai manqué de carburant, le mur c'est un manque de carburant et je pense en fait ça s'est joué. Je le dis un bout de la semaine, mais surtout le vendredi et le samedi. Peut-être pas assez de pâtes, pas assez de riz ou des pâtes trop cuites. On n'était pas à la maison, on était chez ma sœur. Il y a le rythme, hein, c'est toujours un petit peu différent. Les repas étaient un petit peu décalés, etc. J'ai pas assez mangé tout simplement. Je le dis, hein, peut-être pas assez de pâtes, peut-être assez de riz, peut-être mon petit déjeuner, par exemple du samedi matin. Je me dis. Avant d'aller chercher mon dossard et tout au salon du running, était peut-être un peu trop léger. Mon petit déjeuner aussi, peut-être. En fait, il y a peut-être un truc que je pointe. Par exemple, c'est mon riz au lait. Il fonctionne bien sur des trails, hein, 20-25 km, il a bien fonctionné. Sur le semi-marathon, il a bien fonctionné, etc. Mais en fait, c'était sur des efforts plus courts. Et en fait, je me suis fait réflexion, mais qu'après, je me suis dit, le riz au lait, il a un défaut. c'est que le riz, en fait, il cuit trop longtemps. Et en fait, c'est quelqu'un m'a fait la réflexion sur le coup, m'a dit, bah oui, les pâtes trop cuites, c'est comme et le riz trop cuit, bah ça, au lieu d'être des sucres lents, ça devient des sucres rapides, comme on disait, hein, ça devient comme du sucre. Et peut-être c'est ça. Voilà, je pense que vraiment, s'il y avait un truc à changer, ça serait mon riz au lait. Je pense que j'aurais dû la prochaine fois, s'il y en a une prochaine ou sur des longues courses, etc. J'opterais plutôt, oui, pour du riz le matin, parce que j'ai déjà pris du riz le matin, mais du riz pas trop cuit et pas non pas du riz au lait, parce que le riz au lait en fait il cuit très longtemps et je pense que là ça fait partie des soucis qu'il peut y avoir. L'autre chose aussi, bah, je pense qu'il y a une petite fatigue du voyage, hein, potentiel. Conduire le vendredi avec le stress de la route, on est tombé dans des embouteillages. Voilà, il y avait un petit stress parce qu'on partait avec notre fille, donc il y avait toute l'organisation, la semaine est passée très vite. Samedi, j'ai essayé de ne pas trop traîner au salon du running, mais j'ai discuté avec 2-3 personnes, j'ai fait des photos, j'ai acheté 2-3 paires de chaussettes, des choses comme ça. J'ai pas pu faire de sieste le samedi après-midi. J'étais allé au salon du running exprès le samedi matin, mais temps de, j'avais une heure de métro presque, et puis temps de revenir, etc. Bon voilà, le temps de manger, puis on était en famille, j'ai profité un petit peu, discuté avec mon neveu de ses projets, etc. Voilà, il y a eu plein de petits trucs comme ça. Et puis notre fille, elle a fait une grosse sieste, et puis le soir elle voulait plus dormir, donc à 23h elle dormait pas, donc s'est endormie tard. Moi je dormais à côté, même réveillée, faisait des petits bruits. J'ai mal dormi pendant la nuit, hein, je pense qu'il y avait une espèce de petit stress. J'avais pas le stress de me réveiller, de pas me réveiller, même si je me suis réveillé avant 5h, voilà, en fait j'ai même pas besoin de mettre mon réveil, je me suis réveillé avant. Voilà, la nuit n'a pas été top. Je me sentais en forme, hein, mais la nuit et puis de la réexcitation, mais vraiment, je pense que c'est joué aussi un petit peu là-dessus. Et puis, je pense qu'il y a aussi peut-être une question mentale, voilà, tout simplement. Ma hantise était de prendre le mur, on m'a dit attention au mur et tout, tu vas voir ce que c'est, ça va être dur. Et certains m'ont dit, ouais, tu vas voir, ça va être dur, etc. Et on m'a dit toujours au 30e kilomètre, et en fait, je me suis rendu compte pendant un cours, je me suis dit, mais t'es focalisé sur ce 30e kilomètre, t'es focalisé sur ce mur, etc. Et quand je repense à ça, je me suis dit, en fait, peut-être que ce que j'ai raté, en fait, c'est sur le plan mental. Il y a une époque, j'arrivais à faire de la méditation, j'arrivais à faire de la visualisation. Je me suis rappelé d'un trail où j'avais fait une séance de méditation, assis, bon, c'était en plein été, c'était assis dans l'herbe, etc. J'avais respiré, j'avais eu des exercices de respiration que j'avais fait avec une visualisation positive, voilà, tout ça. Et ben là, je l'ai pas fait. J'arrive pas à le faire en ce moment, ça fait des mois que je n'arrive plus à le faire, etc. Et je me dis peut-être que j'ai manqué de ces ressources-là, de cette ressource-là mentale. Peut-être que quand j'étais dans le mur, au moment de, j'arrivais pas à m'accrocher, c'est que j'arrivais pas à m'accrocher à ce que je voulais, voilà. Sur la vitesse, il y a pas mal de kilomètres, en fait, je suis exactement dans les vitesses que je veux. Un poil plus lent, mais j'ai plein de vitesses, voilà, par exemple, je leur dis, hein, j'ai fait des kilomètres en 4,50, 4,53, parce que ce que, vous voyez, je vous ai dit, les 5 premiers kilomètres, j'ai fait un poil plus lent, mais en fait, c'est surtout le premier kilomètre qui était un peu plus lent, et puis après, j'étais dans mes rythmes, hein, 5,05, 4,59, 4,58, 4,57, 4,54, 4,55, vous voyez, 5,07, 4,53, 4,50, 4,50, etc., donc le 13e, il est en 4,52, vous voyez, je suis vraiment dans mes bons rythmes. Le 20e, 5,04, le 22e, il est en 5,00, donc je suis vraiment très bien dans mon rythme, etc. Mais quand ça s'est mis à peiner, et à bout d'un moment, je pense que mentalement, j'étais trop focalisé sur le fait de dire ça va être dur, etc. Et en fait, je crois que je me suis rajouté de la lourdeur avec ça. Là-dessus, je pense que c'est un vrai point, il faut que je arrive à me remettre mentalement, je pense. Je sais aussi, entraînement, par exemple, sur des séances dures, il y a toujours un moment où il y a un petit moment où je n'arrive pas à avancer. Si je trouve ça long, etc., j'y arrive pas, il reste encore 600 mètres à faire en VMA et tout, j'y arrive pas. Et puis après, ça repart. Vous voyez, il y a ce sentiment-là. Et sur le marathon, j'ai eu ce sentiment exactement le même. C'est-à-dire que, dans le 40e, 41e, 42e, enfin voilà, ça repartait, c'était reparti cette histoire-là. Mais il y a eu avant, et à un moment donné, je me dis, mais c'est pas qu'est-ce que tu fous là, parce que je savais ce que je foutais là, pourquoi j'étais là, etc. Mais ça, vraiment, il y a un truc à travailler là-dessus. Je sais que j'ai un truc à travailler là-dessus. Je le dis, hein, sur les prochaines courses, etc. Je dois travailler. Alors, je pense, je vais essayer de reprendre la méditation, la visualisation, les programmes. Sur Petit Bambou, il y a un programme de méditation sportive, etc. Ou visualisation sportive, je sais plus comment il l'appelle. Je pense aux préparations mentales. Et je pense que ça fait partie des choses que je dois travailler. L'autre chose, dans mon bilan, peut-être que j'ai un problème encore d'économie de course. Quand je dis économie de course, c'est de la dépense d'énergie que je mets pour trimballer mon corps. Si, même si mon corps c'est allégé, j'ai longtemps eu le sentiment, vous savez, de lutter contre la piste et la route, hein, quand je courais. Ça s'est beaucoup amélioré depuis que j'ai changé de chaussures, depuis que j'ai changé ma foulée, je cours plus médio-pied, plus vraiment sur l'avant. Mais je pense que c'est encore largement perfectible, surtout qu'avec la fatigue, on a une tendance peut-être à s'affaler, à se rasseoir un petit peu plutôt que de rester vers l'avant. Pendant la course, hein, dimanche, souvent je repensais à ça. Vous voyez, j'ai pas fait beaucoup d'échauffement, mais j'ai fait quelques foulées sur la position pour bien me mettre devant, sur le départ, les premiers kilomètres, bien penser à aller vers l'avant, etc. Et puis régulièrement faire un check de mon corps, de dire est-ce que t'es bien dans ta foulée, est-ce que t'es bien sur l'avancée, etc. Parce que c'est aussi, je sais que courir vers l'arrière, c'est ce qui m'a provoqué ma périostite, c'était mon problème, hein, sur la préparation du marathon de Lyon, c'était mes problèmes aussi de courir trop sur l'arrière, etc. Et en fait, je sais, je le vois en entraînement, etc. Quand je cours vers l'avant et quand j'arrive à allonger la foulée, je suis beaucoup mieux. Et donc j'ai ce changement de foulée qui est pas tout à fait terminé. Voilà, il y a vous voyez, les histoires de fréquence, d'allongement de foulée, etc. Il y a un boulot, je pense, à finir de faire, qui est largement améliorable. Et je pense que ça fait partie aussi de ce qui fait la différence entre quelqu'un qui court en 3h30, quelqu'un qui court encore beaucoup plus vite, quelqu'un qui court en 4h. Je pense qu'on est aussi sur cette histoire d'économie de course aussi, que on peut dire, on peut avoir une VMA, mais que si finalement on peut avoir une bonne VMA, mais qu'on dépense beaucoup d'énergie pour courir assez vite, quand on doit courir longtemps, et ben on n'arrivera pas à le faire. Et je pense que j'ai un petit peu encore ce souci là, qu'il faut que je travaille encore un petit peu. Et puis dans ce bilan, il y a aussi un truc qu'il faut pointer, c'est que je suis rentré dans une zone qui était inconnue pour moi, vraiment inconnue. Et quand je le dis sur le plan mental, je savais pas, il y a peut-être un petit point qui a de faiblesse. Je pense aussi que ce côté inconnu, il a joué, parce que en fait, au plus long, mes sorties les plus longues, c'était 2h30 pendant la préparation marathon, et 2h30, entre 2h30 et 3h30, il y avait une heure, hein, qui se passait. Et cette 2h30, eh ben, ça correspond en fait à ce 30e kilomètre. C'est-à-dire que ce qui se passait après le 30e kilomètre, je l'avais connu en trail, mais en trail, j'avais connu une fois, on s'était perdu, puis en trail, on marche beaucoup plus dans les montées, etc. Il n'y a pas cette histoire de rythme, hein, on n'est pas focalisé sur un rythme à tenir, etc. On est moins dans la vitesse. On ne dépense pas l'énergie de la même manière, hein. vraiment on dépense pas l'énergie de la même manière, on n'a pas la même fatigue non plus, je trouve, etc. Et en fait, c'était cette partie-là au-dessus des 2h30, hein, j'avais fait 2h35 d'entraînement, je la connaissais pas. Au-dessus du 30e kilomètre, je le connaissais relativement peu. Et j'ai découvert quelque chose. Voilà, c'était à un moment donné, je savais pas comment ça allait se passer et autres. Et maintenant, je sais. Voilà, je sais comment ça se passe. Je sais comment me préparer à ça aussi. Je sais, probablement, si je dois refaire un autre marathon, ce que je dois faire, comment je dois préparer, comment je dois envisager les choses, comment ça va se passer, comment ça peut se passer, ou comment peut-être je pourrais éviter que ça se passe. Le gars qui, je vous dis, qui a battu son record, qui fait 2h54, c'était son 7e marathon. Voilà, c'est pas non plus, il claque pas son temps comme ça du premier coup ou quoi que ce soit. Donc il a appris, il m'a dit, j'ai fait, on avait parlé de la préparation, mais il m'a dit, moi j'ai fait 6 marathons, 3 où j'ai pris le mur et 3 où ça s'est bien passé, ça se joue à des petits détails. Et là j'ai découvert ce que c'était, certains de ces détails-là, peut-être. Et je me dis, maintenant, cet inconnu-là, il n'y est plus. Puisque si je dois recourir un autre marathon, je sais ce que c'est de passer au-dessus du 30e, 32e, 33e, 34e, 35e, etc. Donc voilà, c'était mon bilan, on va dire, sur la course elle-même, hein, sur comment ça s'est passé, sur ce déroulement. J'en suis très content, hein, voilà, la déception du temps, en fait, elle n'existe pas vraiment, je vous l'ai dit, elle est un petit peu là, parce que je me suis dit, s'il n'y a pas eu cette histoire de manque d'énergie, Eh ben oui, ça aurait pu se faire autrement, mais c'est aussi ça la course, et on m'avait prévenu, hein, le marathon, c'est aussi être confronté à ce problème-là. Et puis sur des plus grandes courses, j'ai vu d'autres personnes qui aussi, ben, ils ont des. Il y a un moment donné où ça lâche, il y a des moments où ça va mieux, etc. C'est ça, c'est comme ça. C'est ainsi. J'écoutais un podcast, Benjamin Malati par exemple, qui expliquait lui aussi que ben, il y a au bout d'un moment, il y a un truc qui lâche, il y a des trucs qui vont pas, et puis voilà, c'est comme ça. Un mot sur le marathon en lui-même, parce que je voulais dire un petit mot sur le marathon de Paris en lui-même. C'est un magnifique parcours, hein, voilà, courir dans les rues de Paris qui sont vides de voitures, c'est quand même super agréable. On en voit très peu finalement, parce qu'il y a un moment où on croise un ou deux boulevards, on voit les voitures sur le côté, etc. Mais il n'y a pas de voiture. Les rues sont vides, en plus, comme on part assez tôt, etc. Il y a juste rempli de gens qui sont là, qui beaucoup de gens pour encourager avec des petits panneaux, des applaudissements, etc. Il y a des gens qui voient notre nom sur le dossard, qui nous encouragent. Même si les quais m'ont fait souffrir, bah c'est chouette, hein, ça a permis de redécouvrir Paris un peu différemment. Moi, j'ai travaillé 8 mois, donc il y a un petit côté de Paris que je connaissais, mais j'ai par exemple découvert vraiment le bois de Boulogne, hein, que j'avais vraiment traversé que rapidement, bah, pour rentrer, voilà, pour aller voir ma famille ou des gens, on traversait le bois de Boulogne mais assez rapidement sur un bord. J'avais jamais couru dans le bois de Boulogne, j'ai jamais vu qu'on pouvait faire autant de courses et de vélos dans le bois de Boulogne, qu'il y avait des chemins, que c'était comme ça, que c'était aussi un poumon vert à quelques pas finalement des Champs-Élysées. Le bois de Vincennes. J'étais allé à la Foire du Trône, etc. Mais vous voyez, il y a des choses comme là quand on arrive au bois de Vincennes, je vois Foire du Trône, je dis tiens, on est là, etc. Tiens, il y a pour moi c'est une redécouverte. Vraiment une redécouverte, hein. Je me suis amusé aussi de courir dans ces rues, vraiment, où d'habitude je me dis tiens, là il y a plein de bagnoles et puis là il y en a pas et tout, c'est un petit peu notre revanche. Nous, les gens qui préférons marcher, courir que d'être toujours en voiture. J'ai aussi trouvé, je me suis amusé à trouver que les lignes droites étaient moins longues que pour les 10 km de Paris que j'ai couru il y a 2 ans, mais qui avait été une course qui était vraiment... les lignes droites m'avaient épuisé. Et puis en plus, comment dire, il y a deux choses. C'est qu'il y en a certaines qui étaient communes, Rivoli, etc., mais on les a faites dans l'autre sens. Oh, je sais pas si le sens change grand-chose, mais je les ai faites plus vite. Donc, dans les faits, elles étaient moins longues parce que je les ai courues plus vite. Hein, voilà. Et puis, j'étais en meilleure forme, j'ai le meilleur sentiment. Et puis, elles arrivent aussi au début, quand je suis en pleine forme et que j'ai toute l'énergie, plutôt que vers la fin où des 10 km de Paris, on les prenait dans l'autre sens et j'étais déjà bien entamé après 5 km. Mais j'ai trouvé que les lignes droites qui m'avaient cassé les jambes sur les 10 km de Paris, il y a 2 ans, et ben je les ai trouvées beaucoup plus agréables. Donc comme quoi, bizarrement, les courses, on peut passer au même endroit, on n'a pas le même sentiment. Donc on découvre Paris, c'est une jolie visite touristique, mais je me suis aperçu qu'en fait, elle n'était pas si touristique que ça. Certes, j'ai regardé les immeubles, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait autour, j'ai vu des affiches sympas, j'ai vu plein de trucs sympas, j'ai vu la Tour Eiffel, hein, voilà, il y a même un panneau, là-bas vous avez la Tour Eiffel. Mais par exemple, je suis incapable de vous dire si on est passé pas très loin de Notre-Dame. Vous voyez, Notre-Dame qui a brûlé il y a 2 jours. Sur le coup, je me dis, est-ce qu'on est passé proche ou pas, quand on était sur les quais ou pas? Je suis incapable de vous le dire. En fait, il y a des choses. Par exemple, on passe devant la Fondation Vuitton dans le bois de Boulogne. Là, j'ai regretté. Je me suis dit, oh, bah, c'est dommage qu'on arrive dans ce sens-là. Ça aurait été plus joli de la voir de face, plus beau. Alors que là, on arrive de dos. Puis on se retourne un peu pour regarder à quoi ça ressemble, on la voit pas très bien. Ça, vous voyez, il y a des trucs comme ça, la Tour Eiffel, Fondation, je la vois. Mais j'étais dans ma course, et il y a des trucs que j'ai pas vus. Je vous donne une anecdote. L'après-midi, on discutait avec ma nièce, et elle me dit, tu sais que t'es passé Place Vendôme, et que Place Vendôme, il y a ça. Et je dis, on est passé Place Vendôme? Elle me dit, oui. Je dis, non, on n'est pas passé Place Vendôme. Moi, la Place Vendôme, je connais, j'étais passé en touriste, hein, sur la Place Vendôme. Je dis, t'es sûr qu'on est passé Place Vendôme? Et elle me dit, oui. Et alors, je lui montre à ma sœur mon plan GPS sur ce travail et tout. Elle me dit, oui, t'es passé Place Vendôme. Je dis, mince. Elle me dit, tu sais, Place Vendôme, il y a le truc au milieu, la statue. Et je dis, oui, peut-être. Maintenant, sur le coup, je vois que je suis passé Place Vendôme. Je vois ce que j'ai fait Place Vendôme. Et c'était quoi? J'étais dans la concentration de mon temps, pas me cogner contre quelqu'un. Il y avait des gens qui courent un peu moins vite, il y avait des trottoirs, il y avait des barrières, il y avait des choses comme ça. Et ben tout ça fait, il y avait des pavés aussi. Ça je m'en rappelle, voilà. Et ben tout ça fait que finalement cette Place Vendôme, je l'ai pas regardé. J'ai pas regardé, j'ai regardé où j'allais, c'était pas du tourisme. J'ai pas vraiment regardé la Place Vendôme. J'ai même eu un truc rigolo aussi, c'est que dans l'après-midi sur l'organisation sur Instagram, sur le compte officiel du marathon, sur Instagram, ils mettent une photo de la place de la Concorde en disant « Que vous inspire cette photo ?» Et mon sentiment fut, vraiment, je me suis dit, mais, et j'ai mis le commentaire, je dis, je suis réellement passé par là. Et oui, mais c'était au tout début, pourtant, oui, on est réellement passé par là. Mais vous voyez, j'étais vraiment tellement dans la course, etc., que, puis l'obélisque est tellement grand en plus et tout, que vraiment, on le regarde pas. Alors que pourtant, ce qui est incroyable, c'est que, là, c'est vraiment typiquement le genre d'endroit où il y a toujours de la bagnole, il y a toujours des voitures et tout. Et ben le fait qu'on ait tout pour nous, coureurs, etc. Et ben j'ai le sentiment de pas l'avoir apprécié plus que ça, tout simplement parce que j'étais dans ma course, dans faire attention aux autres personnes, ne pas gêner, ne pas être faire attention aux personnes qui couraient moins vite, aux personnes qui couraient plus vite, faire attention à pas se mettre un pied dans les pavés, etc. Enfin, vous voyez, tout un tas de choses comme ça. Après. Ben le public était top, hein, vraiment une super ambiance. Il y avait de la musique, et les chanteurs et tout qui chantaient le bord de la route et tout. J'ai trouvé ça génial. Vers le kilomètre 31, là il y a le truc, il y a des trucs qui m'ont fait marrer. Il y avait un vieux qui, enfin je sais pas quel âge il avait, hein, pardon pour lui s'il écoute un jour ça, mais qui montait sur un vieux flipper et qui chantait à tue-tête, etc. Un peu plus loin, il y avait des, j'ai rigolé, ben, j'aurais fait un petit signe, un petit pouce levé parce que. Il y avait des jeunes filles qui avaient une pancarte avec un truc du style cheerleaders nu dans un kilomètre. Et je leur ai fait un petit sourire avec un petit doigt levé pour dire, ça m'a vraiment fait rigoler. Et là où j'ai rigolé, c'est que juste avant, autour du kilomètre 42, ou juste avant, ou peut-être il y a un truc à 500 mètres de l'arrivée, il y a quelqu'un d'autre, un gars qui avait le même panneau cheerleaders nu dans un kilomètre, et je me suis dit non mais ton panneau il est foireux parce que dans un kilomètre ça sera fini. Donc toi ton panneau il est foireux, alors que le panneau de la fille qui était au kilomètre peut-être 33, 34 ou 31 ou 32 et tout était beaucoup plus rigolo et était beaucoup plus approprié et bien mieux là-dessus. Un petit mot sur l'organisation et les bénévoles. C'était super bien organisé. J'ai vu des gens super sympas, des gens qui encourageaient au ravito. Et ce que j'ai pas dit hein, sur la période, le moment où vraiment j'ai pris le mur, c'est qu'il y a un ravitaillement où au début je prenais le ravitaillement en courant doucement. Alors c'était un peu la pagaille les ravitaillements quand même, hein, parce que quand on était 12 000 dans, 10 ou 12 000 dans le sas, et ben ça arrivait un petit peu, ça se frottait un petit peu. J'ai trouvé quand même que les gens étaient super sympas au ravitaillement. Ils rappelaient de bien boire, de bien manger. Il y en a qui regardaient le prénom, qui disaient « Allez, ça va bien se passer, etc. Vas-y, et tout. » J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment super sympa. Et donc, sur ces ravitaillements, il y a, ben, dans le mur, là, quand je suis pas bien, il y a un ravitaillement, ben, sur les quais, vraiment, en sortie de, sur, je le revois, ce ravito. J'ai pris une décision, c'est que j'ai dit « Là, tu vas marcher, pour manger. » c'est, vous voyez, j'étais saoulé de courir, etc. Vraiment, on voit que le mur, c'est pas que physique, c'est mental aussi. Et donc, j'ai dit, bah là, tu vas marcher, après le ravitaillement, j'avais pris de quoi manger, j'ai pris un peu de salé, hein, des tucs, etc. J'ai pris de l'eau et j'ai marché pendant 100 mètres pour manger tranquillement, pour me remettre bien, etc. Et après, je me suis dit, maintenant, tu repars et tu ne marches plus. Voilà. C'était ce sentiment-là. Autour du 35e, 36e, etc. Après, je me suis dit, maintenant, tu ne remarches plus, sinon tu ne vas plus repartir, mais tu ne marches plus. Mais sur un des ravitaillements, j'ai pris plus de temps, voilà, il y avait pas trop de monde, etc. À ce moment-là, c'était sur la fin, là, des tables. Et ben, d'être plus tranquille, d'être plus cool, de dire, bon, bah, de toute façon, tu t'en fous, hein, t'es pas pour faire un temps, une place ou quoi que ce soit, que je fasse 3:33, 3:48 ou 4, ça me chargeait pas grand chose de ma vie. Donc je me suis dit, je préfère manger un coup tranquillement, etc. Marcher tranquillement et puis repartir. Mais après, par contre, tu t'arrêtes plus. Et vraiment sur le ravitaillement, les gens étaient sympas. Et puis il y a pas que sur les ravitaillements, tout le long, les pompiers avec les lances à eau et puis les trucs pour s'asperger, même s'il faisait un peu frais. Et puis avant le départ, il y a un monsieur qui a vu que je faisais un selfie, m'a proposé de faire une photo. Alors je sais pas ce qu'il a fait, il n'arrivait pas à faire la photo avec mon iPhone, mais c'est pas grave. L'intention était là et j'ai trouvé que c'était super sympa. Alors maintenant, eh ben que ce bilan est fait, que se passe-t-il maintenant la suite? Je le dis, hein, c'est encore l'euphorie. C'était un chouette moment. Maintenant, c'est du repos physique. On en avait parlé avec Armano, hein, lui il disait il lui prend c'est un mois de repos, son entraîneur dit un mois de repos. Mon coach du club m'a dit, ben tu prends 15 jours, 3 semaines minimum autour de ça de repos, c'est ce que j'ai prévu. Il me dit faire un peu de vélo, piscine, aller marcher au soleil, voilà, moi c'est ce que j'ai prévu. du sport porté, on va dire, hein, de pour pas couper finalement le fait d'avoir la préparation, de pas tout couper. Ça serait peut-être, j'irais peut-être à la piscine, je voulais faire un peu de vélo, j'irais marcher au soleil parce qu'ils annoncent du beau temps. Je sens quand même un petit contre-coup de fatigue globale, vous voyez, un petit peu. J'ai pas très bien dormi le dimanche soir, j'ai pas très bien dormi le lundi. Je pense que j'ai revécu, j'en ai rêvé, hein, très clairement. C'était pas... Autant il y a des courses, vous voyez, le soir je dormais mal parce que j'avais mal aux jambes, j'étais pas bien. Là vraiment, je pense que le bain m'a fait beaucoup de bien le dimanche soir, et puis j'ai pas très, c'est pas la fatigue ou les douleurs, vous voyez, dans les jambes, qui c'est autre chose. J'ai pas très bien dormi, je suis un petit peu malade, vous entendez, je suis un petit peu enrhumé, j'ai la voix qui est un petit peu qui gratte un petit peu. Ça, c'est un petit contre-coup de fatigue globale. Je pense, voilà, qu'il faut un petit peu de temps pour que le corps se remette, donc il y a un petit peu de repos physique, et puis il y a un petit peu de repos mental aussi par rapport à la course elle-même, au running, etc. Donc j'ai pas prévu d'autres courses pour l'instant, même si j'ai fait un planning de course, je me suis dit, ah, il y a des trucs que j'aimerais bien faire, etc. Je vais pas reprendre les entraînements maintenant, hein. J'ai dit, je fais 15 jours, 3 semaines, la semaine prochaine, je n'irai pas je pense pas que j'aille à l'entraînement. Il n'est pas impossible qu'en fin de semaine, j'aille courir 30 minutes si les jambes me démangent, mais j'attends qu'elles me démangent. Voilà, c'est très clair, j'attends que ça démange. Je me sens pas vraiment donc d'aller aux entraînements, et moins de replonger dans une prépa longue, et donc encore moins dans une prépa marathon. Je me dis pas, et c'est clair, je vais pas faire un deuxième marathon cette année. Vous voyez, parce qu'il y a le marathon de Clermont qui sort en octobre, je me suis dit, tu peux toujours dire, ouais, tu vas faire le marathon de Clermont. Non, vraiment, cette année, pas de marathon, pas de distance longue, etc. J'ai décidé vraiment que j'allais faire des distances plus courtes. Quelqu'un m'a dit, pourtant, inscris-toi vite, hein, pour le prochain. Mais pour l'instant, je reste fidèle à ma boutade en disant que le prochain marathon, ce sera celui des JO de Paris en 2024, mais c'est bien un marathon européen. La vérité, en fait, c'est que je me dis que si je voulais faire le marathon de Paris en 2024 et que ce soit un chouette marathon, il faudrait qu'en fait, je fasse un marathon ou deux par an pour que bien préparer les choses, etc. Vous voyez, que la progression, apprendre. Vous voyez tous ces petits points d'apprentissage. Les repas, la préparation avant, l'alimentation, adapter encore un peu la préparation, toutes ces choses-là. Et ben, pour tester, voir, etc., pour que 2024 soit un chouette marathon, il faut faire d'autres marathons entre-temps pour voir ce que c'est. Donc, je me dis qu'une bonne préparation pour 2024, ce serait de faire un marathon par an environ, voire peut-être deux, hein, pourquoi pas. Je ne dis pas, mais vous voyez comme quoi je dis pas non. Hein, on dit, une fois que tu as fait un marathon, tu vas en faire d'autres. Et je dis pas non, mais ça sera pas Paris sur l'instant. Hein, j'avais prévu d'aller à Lyon, et vous voyez, je suis très belle, je me dis, bah, t'as pas réussi à faire Lyon, et ben pourquoi t'irais pas faire Lyon un jour, hein, hein, voilà. Toulouse, hein, j'ai des gens du club, souvent ils vont faire Toulouse. Bordeaux, qui est de nuit, je me dis que ça doit être un marathon qui est très sympa, vous voyez. Il y a des choses comme ça qui, je me dis, ça peut être super sympa. Je me laisse en tout cas du temps. Je dis, hein, cette année, je fais pas de distance longue. J'étais tenté même d'ailleurs par un trail de 37 km qui descend du Puy-de-Dôme. En fait, il y a plus de dénivelé négatif que de dénivelé positif dans ce trail. Du style, on descend 1800 mètres, mais il y a quand même, ils ont foutu des petites montées parce qu'il y a Gergovie au milieu, et puis je connais des organisateurs. J'ai déjà fait les trails les autres années, et je sais qu'ils trouvent toujours des chemins avec des trucs bien rédillons, etc. Ça fait 37 bornes, et ben, vous voyez là, au moment où je me suis dit, oh, ça va être sympa, j'ai failli m'inscrire, et me dit, là, je me sens pas de faire les 37 km. Voilà, je me sens pas. J'ai pas envie pour l'instant de me relancer dans une préparation pour faire 37 km ce jour-là. Donc, pour l'instant, je suis plutôt parti pour faire des 5 ou des 10 km. Alors, on a 10 km de coureur à Clermont. Vous voyez le 10 km dont je vous parlais il y a 3 ans, sur lequel j'avais bien souffert. Mais je me dis, tiens, pourquoi tu n'irais pas le refaire cette année, ce mois de juin? Vous voyez, ça laisse 2 gros mois, là, tranquillement, pour le préparer. Et pas préparer pour battre un record, mais préparer pour le faire, pour être bien, pour voir mes progrès, etc. Et puis, je me dis, je pourrais faire aussi quelques trails court, voilà, des choses comme ça. Je voudrais aider ma femme aussi à bien reprendre la course, hein. Après la grossesse, c'était compliqué de reprendre la course. On a fait 5 km en début d'année, là, mais c'était très dur pour elle parce qu'elle a pas pu courir. Elle avait mal au dos, des douleurs comme ça, etc. Et en fait, sur nos agendas, on a inscrit une course féminine, hein, vous voyez, c'est clairement en rose, hein, donc c'est contre le cancer. Et donc, ça fait plusieurs années qu'elle dit qu'elle veut la faire et puis qu'elle la fait pas, etc. Et donc, je voudrais aider ma femme à pouvoir la faire, à pouvoir courir, à pouvoir être contente de le faire et à préparer ça. Et donc, ça fait pas... Vous voyez, je trouve que c'est un chouette objectif. Je veux aussi travailler ma musculation du haut du corps. Mais là, c'est lié à ma perte de poids. Vous voyez, j'ai perdu du poids, j'en ai encore perdu pendant la préparation. Mais en fait, cette perte de poids, c'est une sorte, notre forme de marathon. Et en fait, ben, y a des petits trucs, hein, c'est que c'est un peu flasque encore, etc. Et en fait, ce que j'ai dit à ma femme dans la voiture, c'est que j'ai le sentiment que sur ce plan-là, il y a un truc qui est pas fini. C'est qu'en fait, le ressenti de mon corps, vous voyez, de mon ventre, des choses comme ça, et ben, j'aimerais le sculpter un peu plus, le haut de mon corps. Raffermir un peu les pectoraux, avoir une ceinture abdominale un peu plus forte, même si je suis content des efforts que j'ai fait, parce que j'ai fait des abdos, j'ai fait pas mal de gainage pendant la préparation, et je vois que c'est efficace, mais ça je voudrais finir un petit peu. Alors l'idée c'est pas de prendre beaucoup de muscles, l'idée en fait c'est de remplacer encore un peu de graisse par un peu plus de muscles, et centrer sur ces zones-là, c'est-à-dire faire des exercices qui sont centrés là-dessus, pour vraiment raffermir et puis vraiment avoir être fort sur le haut du corps, et ce qui est très utile pour la course, parce que finalement la tenue du dos, la tenue de abdominale, etc. est importante pour la course, et je pense que ça sera très bénéfique aussi de travailler là-dessus. Mais le but du jeu n'est pas de prendre des bras énormes et d'avoir encore plus de poids à trimballer. Le but du jeu, c'est vraiment il y a un côté esthétique, il y a un côté fin de ce marathon de perte de poids, parce que maintenant je vais pas perdre 10 kilos de plus, hein, soyons honnêtes. Je suis descendu autour de 78 kilos. Je suis remonté un petit poil, hein, dans cette fin de à force de manger du riz, des pâtes, je pense que j'ai repris un tout petit peu, mais je vais rester dans cette zone-là. Mais le but du jeu, c'est de remplacer un peu de gras par un peu de muscle en plus, et ça fera un corps un peu plus ferme sur le haut du corps et sur le ressenti. C'est vraiment un ressenti, psychologique, vraiment à l'œil, voyez. C'est un détail, mais c'est un détail qui compte et qui est important pour moi. Et mon idée aussi, et je l'avais dit, c'est que dans mon programme de course de l'année, j'ai envie de finir ma transition vers plus de minimalisme dans la course. Mais je suis passé à des chaussures qui sont plus minimalistes, hein. Je cours avec des Altra Escalante qui ont un coefficient de minimalisme de 76%. Donc le 100%, c'est quoi? C'est les Five Fingers Vibram, vous voyez, avec les orteils là, etc., qui ont très peu de semelles. Eh ben, j'avais dit que j'aimerais courir en Five Fingers. C'est une idée que j'ai depuis très longtemps dans la tête, et puis j'avais abandonné. Et je me rends compte que, et en discutant, etc., que ça pourrait être dans la fin de ma transition de, vous voyez, pour finir d'améliorer ma foulée, plus économe, etc. Eh ben, je pense que ça serait pas mal. L'idée, c'est pas de faire des trails longs avec ça. Ça serait de pouvoir faire des petites sorties courtes, etc., de faire les échauffements, vous voyez, des exercices avec, pour terminer ma transition de foulée. Voilà, tout simplement. Et aller vers... j'avais dit qu'après ce marathon, j'ai une envie, ça serait de courir en regardant moins la montre, de courir plus aux sensations et de courir en regardant moins la montre. Là, vraiment, sur la préparation, il y a ces histoires d'allure marathon, d'être bien collé dessus, etc. Là, j'ai envie, pendant les mois qui viennent, de courir vraiment plus aux sensations et de vraiment de courir plus... au ressenti, et de cette vitesse là autour l'allure marathon, et ben je pense que petit à petit elle s'est intégrée et que je vais travailler pour qu'elle reste intégrée, hein, soyons clairs. Mais j'ai envie de courir avec des sensations et aussi de sentir le terrain, etc. Les ultra, je sens très bien le terrain, mais sur mes trails par exemple, je sens pas très bien le terrain, etc. J'ai essayé des ultra trails, les Lone Peak, que j'ai adoré parce qu'elles sont vraiment dans la logique de mes escalantes. D'ailleurs, mes escalantes, Altra fait un modèle racer Marathon de Paris qui était magnifique, mais vraiment magnifique. Si j'ai eu budget, en fait, je les aurais achetées le samedi pour pouvoir aller à l'entraînement, parce qu'elles sont vraiment faites pour la piste. Elles sont encore un peu plus rigides. Vraiment, elles sont super chouettes en plus. Mais bref, vous voyez, dans ces envies-là, c'est de me dire... je vais rester, hein, sur mes chaussures, sur mes Altra, mais je vais rajouter un petit peu, je pense, hein, je voudrais courir en Five Fingers, voir ce que c'est, faire au moins des exercices, des échauffements avec. Et puis je m'étais dit, j'aimerais faire une petite course un peu courte, mais vraiment sur tout sur l'automne, c'est-à-dire que je me laisse plusieurs mois, voir. Peut-être que c'est pas possible d'ailleurs, hein, quand j'ai une course courte, c'est faire quelques kilomètres avec, de voir ce que c'est de courir avec les Five Fingers sur des terrains qui soient du grand chemin, vous voyez. Le but du jeu, c'est pas de faire de la route avec, c'est d'aller faire du chemin autour de la maison, etc., c'est d'apprécier un petit peu le terrain différemment. Donc tout ça, je vous en parlerai, parce que il reste un point, c'est le podcast qui s'appelait Kilomètre 42, il s'appelle toujours Kilomètre 42, et je l'avais ouvert pour parler de la préparation marathon. Bon, je l'avais dit, Kilomètre 42 se poursuivra après le marathon. On retrouvera d'ailleurs l'ami Hermano, hein, qui dans sa pause, dans ses repos, dans ses vacances. On le retrouvera sur un épisode, on avait dit, on fera un bilan après, hein, comment s'est passé son marathon à lui, comment s'est passé mon marathon à moi, et confronter nos expériences. Je sais que vous avez bien aimé l'épisode avec lui. Et donc, j'aurai d'autres invités. C'est un truc voilà que je vais faire, je vais essayer d'avoir d'autres invités pour parler de nos expériences diverses et variées, de voir eux comment ils envisagent la course, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles sont leurs expériences, comment ils préparent ça, etc. Pas forcément des gens qui font du marathon, ça peut être des gens qui font du trail, des gens qui font de la route. J'aimerais par exemple aussi donner la parole à des gens par exemple qui peut-être qui sont du club, vous voyez, ou le président du club, des gens comme ça. Je trouve que ça serait un moyen sympa aussi de poursuivre la découverte du running, parce que moi je le dis, hein, ça fait que 3 ans que je cours. C'est pas parce que maintenant j'ai couru mon marathon que je sais que j'estime être un coureur aguerri ou quoi que ce soit. Pour l'anecdote d'ailleurs, en parlant de coureur aguerri, on a un Auvergnat qui a couru le marathon de Paris à 90 ans. Enfin, entre 89 et 90, il avait couru le semi-marathon de Vichy aussi, hein, je l'avais vu au semi-marathon de Vichy. Il s'est mis à courir à 50 ans, a priori, c'est un chauffeur de bus, il s'est mis à courir à 50 ans. Et donc, vous voyez, ça fait 40 ans qu'il court, et moi, je me dis, ça fait que 3 ans, donc il y a encore énormément de choses à apprendre, énormément de choses à tester, énormément de courses à faire, énormément de kilomètres à parcourir, de choses à tenter, à essayer. Et ben de tout ça, je continuerai à vous en parler dans les prochains épisodes du podcast. Et donc je vous dis donc à très bientôt. Et avant de vous dire à très bientôt, je voudrais aussi vous féliciter tous, hein, et toutes. Toutes et tous, et pour ceux, si vous avez couru le marathon, que ça soit Paris, que ça soit Annecy, que vous ayez fait des courses plus courtes, plus longues, ou que vous prépariez un marathon, j'ai eu des messages de certains qui préparent des marathons qui arrivent, bravo à ceux qui en ont couru 1, 2, 3, 10, 20, 100, belle préparation à ceux qui vont en faire un, hein, si vous écoutez ça et que vous préparez un marathon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Vous avez besoin de motivation, des trucs comme ça, etc., dites-vous que c'est un chouette moment, un vraiment, vraiment un chouette moment à vivre, que toute la préparation peut vous paraître dure, mais qu'en fait, on est avec cette préparation dure, elle vous prépare aussi à vivre un très très chouette moment et à le vivre beaucoup mieux et beaucoup plus intensément. Parce que c'est ça que je garde finalement de ma préparation, c'est que je dis, à l'arrivée j'arrive frais, mais c'est en arrivant frais que ça me permet d'en profiter. Je voulais vraiment pas dire je fais un super temps mais je finis aux urgences, c'était vraiment pas mon truc, et vraiment vraiment je suis super content d'avoir pu en profiter au maximum, d'avoir pu profiter de tous ces moments là et de pouvoir vous les raconter maintenant. Et donc votre préparation, elle vous sert aussi à ça. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode, et puis courez bien, ciao ciao.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.